Bonjour, ici Bethléem Hickman et Michel Bedard pour cette nouvelle édition de Troisième Planète, l'émission où vous parle d'environnement et de société sur CKIA 88.3. Alors on va me dire que je suis un peu obsédée par la vie de Saint-Jean-Baptiste, mais il s'y passe beaucoup de choses cet été. On y fait pousser des légumes, mais à partir de cette fin de semaine, dimanche, de 9h à 13h, on va pouvoir aussi y acheter des produits locaux grâce au projet Faubourg en saveur. Et aujourd'hui, je reçois Dominique Bernier qui a coordonné la mise en place de ce marché public. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Alors pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière dans l'histoire de Québec et des marchés à Québec. Il y en a eu un certain nombre et puis au fur et à mesure, ils ont disparu. Pourquoi donc ?
Pourquoi, en fait, il y a plusieurs raisons qui ont entraîné la disparition des marchés publics, mais pour faire un bref retour, on peut dire qu'en fait, le tout premier marché public à Québec se trouvait à Place Royale. C'était au tout début de la colonie, à l'endroit devant l'église, l'endroit que tout le monde connaissait, qui est aujourd'hui un lieu hautement touristique. Et c'était vraiment dans ce qu'on appelait à l'époque l'habitation, le lieu où les gens de la ville s'approvisionnaient en fruits et légumes, en viande et tout ce que ça prend pour se nourrir. Donc, c'était essentiel. C'était le seul moyen de s'approvisionner, en fait, en fruits et légumes, à moins d'avoir son propre potager, ce qui n'était pas le cas de tout le monde qui habitait en ville. Par la suite, il y en a eu plusieurs autres à l'endroit, en particulier en Hauteville, à l'endroit où se trouve actuellement le Palais Montcalm. C'était un marché. Juste ici, en face du studio, à l'endroit qui abrite maintenant la bibliothèque Gabriel-Leroy, c'était aussi un marché. Dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, il y en avait un à l'endroit de l'actuel parc Berthelot. Donc, c'était toujours dans une optique là, de fournir des aliments aux gens qui habitaient en ville. Et c'est dans la période d'après-guerre, en fait, à partir des années 50, que là, les marchés ont commencé à décliner. Il y en a eu de moins en moins. Avec l'avènement des supermarchés, on sait que bon, il y a eu un essor économique et graduellement, les municipalités se sont désengagées et ont arrêté un peu de contribuer à rendre possible ces marchés-là en confiant de plus en plus l'approvisionnement au privé, finalement.
C'est une question de quantité ou...
Ben, il y a plusieurs facteurs, mais en fait, c'est vraiment faut se remettre dans la période d'après-guerre. Il y avait une espèce d'effervescence économique et beaucoup de... On était, bon, dans une logique ici capitaliste par opposition à ce qui se faisait dans les pays de l'Est. On voyait le développement économique sous l'angle de la propriété privée, de l'entreprise privée. À cette époque-là, ça semblait logique de confier, de permettre à des marchands de reprendre en main l'approvisionnement alimentaire plutôt que de le laisser aux agriculteurs. Puis à cette époque-là, il faut savoir aussi que parallèlement, il y a eu ce qu'on a appelé la Révolution verte, qui est bien mal nommée, si vous, selon moi, mais où on encourageait les agriculteurs à s'industrialiser, à se mécaniser davantage, à opter pour la monoculture. Donc, il y avait de moins en moins d'agriculteurs diversifiés. On les encourageait à avoir de grandes productions. Et ces agriculteurs-là, ça faisait en sorte aussi qu'ils n'avaient plus le temps nécessairement de venir vendre et plus la diversité de production nécessaire pour venir vendre. Mais bon, il y en demeure encore. On sait qu'il y a le marché du Vieux-Port à Québec. Il y a le marché public de Sainte-Foy aussi qui est quand même...
Il y avait aussi des questions d'hygiène aussi, peut-être?
Possiblement, mais en fait, c'est sûr que graduellement, disons, les chimistes du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation ont sorti leur microscope et ont vu toutes sortes de bactéries dans le fromage. Et possiblement que ça a fait en sorte qu'ils ont resserré les règles au niveau de l'hygiène. Mais globalement, en fait, je pense que c'est plus l'industrialisation de l'agriculture.
Ouais, puis la séparation de la partie production puis distribution.
Tout à fait, oui. Hein? Oui.
Ouais. Alors aujourd'hui, on a un élément nouveau, je dirais, c'est la nouvelle politique de souveraineté alimentaire qui va encourager la consommation de produits du Québec. Alors, Au-delà des bénéfices pour l'économie générale du Québec, ça a d'autres avantages de consommer local. Quels sont ces avantages?
Ben, en fait, si on va à la base, l'avantage principal, selon moi, c'est de maintenir vivante une agriculture de proximité. Et ça, c'est absolument essentiel. Nous, on s'en rend pas compte parce que les tablettes des supermarchés sont pleines actuellement. Ouais. Mais parlez-en aux Grecs. Parlez-en à des pays qui ont connu des guerres, qui ont connu des difficultés, des bouleversements climatiques, des bouleversements écologiques quelconques, des catastrophes. Avoir ces moyens de production alimentaire à proximité, c'est absolument essentiel. Et ce n'est qu'en encourageant l'agriculture de proximité, ce qu'on appelle les circuits courts, le fait d'avoir le moins d'intermédiaires possible entre le producteur et le mangeur, qu'on peut maintenir ces moyens de production-là en bon état de produire, finalement, et ça assure la résilience des populations urbaines, tout simplement. On a besoin de manger pour se nourrir. Et si on est dépendant des importations, si on est dépendant de grands groupes d'agro-industrie pour se nourrir, eh bien, on est fortement fragile du point de vue de la survie, tout simplement.
Il y a aussi un avantage environnemental à consommer local, parce que finalement, quand on fait appel à l'import, ça induit beaucoup d'impacts environnementaux en plus.
Tout à fait. En fait, actuellement, si on peut consommer des produits de partout dans le monde, comme c'est le cas, c'est pour une seule raison. C'est à cause de l'abondance de pétrole à faible coût, dont on ne calcule pas le coût écologique. La journée où le pétrole est moins disponible, ça devient d'une part hors de prix d'importer les aliments, et d'autre part, bien sûr, comme vous le dites, il y a un impact écologique majeur à faire transporter des aliments sur plus de 3000 kilomètres parfois. On sait qu'il y a des laitues qui nous arrivent de Californie et que le coût, l'énergie du transport est supérieur à l'énergie que les laitues fournissent à notre organisme. Ça, c'est assez illogique quand on y pense.
Et puis aussi à consommer local, on encourage aussi des plus petites exploitations qui ont un rôle aussi environnemental en termes d'équilibre, plus que les grosses exploitations. Finalement, ça, c'est un écosystème qui perdure finalement.
Oui, effectivement, les productions qu'on dit à échelle humaine, les plus petites productions, diversifiées surtout, ont un impact positif sur l'environnement parce qu'en fait, elles préservent la biodiversité très souvent. Souvent, les pratiques culturales vont être plus adaptées, plus écologiques, vont protéger mieux les cours d'eau, vont conserver des bandes riveraines pour éviter qu'il y ait que le sol et les différents produits s'en aillent dans l'eau. Puis aussi, tout simplement, ça constitue des réserves fauniques, des réserves de biodiversité végétale aussi. Donc, oui, il y a un impact positif de, disons, convertir les grandes superficies agricoles basées sur la monoculture en petites exploitations agricoles diversifiées, biologiques idéalement.
Alors, justement, avec ce projet du Faubourg, là, on a fait un peu d'éducation et c'est aussi... L'un des volets de ce marché. On va faire plus que juste pouvoir y acheter des produits. Il y a aussi de la sensibilisation.
Oui, il va y avoir des kiosques d'information sur différents sujets liés à l'alimentation et à autant l'aspect écologique de l'alimentation que l'aspect santé. On va avoir en particulier ce dimanche le Centre Famille en collaboration avec le collectif Caméléon qui vont opérer un vélo à smoothies. C'est un vélo doté d'un mélangeur à l'arrière et qui permet de fabriquer des boissons rafraîchissantes tout en faisant de l'exercice.
D'accord.
Donc, on va pouvoir... c'est ça. Il y a de l'éducation à l'alimentation qui va être faite tout au long de l'événement. C'était un des objectifs du projet. Donc, à chaque semaine, il va y avoir un organisme différent qui va nous présenter de façon ludique un aspect éducatif.
Bien. Ben, l'idée de ce marché, finalement, c'est pas une nouvelle idée. Ça fait longtemps qu'elle circule. Finalement, qu'est-ce qui l'a rendu possible maintenant Est-ce qu'il y a eu un terreau fertile, quelque chose qui a déclenché
Ben, en fait, je pense que c'était dans l'air du temps un peu. Les circuits courts sont de plus en plus populaires et comme vous l'avez dit, le gouvernement, dans sa politique de souveraineté alimentaire, veut mettre l'accent sur les circuits courts. Comment ça va se concrétiser? Est-ce que les bottines vont suivre les babines, comme on dit? Ça reste à voir. Mais quand même, il y a une intention qui est là, donc c'est louable. Et puis, je pense que, dans le fond, les différentes personnes qu'on a approchées ont tout de suite été sensibles à cette vision-là qui est quand même assez bien relayée de plus en plus par les médias de masse, notamment par plusieurs émissions axées sur la cuisine, mais aussi sur l'agriculture urbaine. On voit qu'il y a comme un engouement pour ce genre de pratique qui nous rapproche un peu plus du contenu de notre assiette. Donc, je pense que c'est ça, c'est un ensemble de facteurs qui ont rendu ça possible. Et la Ville de Québec a été quand même très collaborative, là, sachant qu'à d'autres moments, c'était plus difficile.
Ouais, mais notamment le choix du lieu, ça a été une contrainte ou...
Oui, mais en fait, on avait plusieurs scénarios au départ. Là, l'équipe qui, en fait, les démarches ont commencé en janvier dernier. Et l'équipe qui s'est réunie avait élaboré différents scénarios. Au départ, on souhaitait faire le marché sur le parc Berthelot parce qu'en fait, c'est le lieu de l'ancien marché public du quartier Saint-Jean-Baptiste. Mais bon, c'était pas possible en raison d'un règlement municipal et on nous a, disons, quand même à la ville suggéré de faire les démarches, d'entreprendre les démarches pour faire changer le règlement. Mais on comprend que le règlement a été voté par et pour les citoyens et ça visait à conserver, disons, la vocation du parc en tout temps, puis de la prémunir contre d'autres activités, ce qui est normal. Donc, probablement qu'on va entamer les démarches avec d'autres groupes aussi là, pour faire modifier cette réglementation-là. Mais quand même, le choix du parvis, c'est symbolique et c'était quand même une option, une de nos options préférées. Parce que les parvis d'église de tout temps ont été un lieu de sociabilisation et c'est un des autres objectifs du marché que d'améliorer, de favoriser la convivialité puis la socialisation des gens du quartier. Je pense que ça aussi, c'est dans l'air du temps d'essayer de retrouver une vie de quartier un peu plus, puis de retisser des liens entre les citoyens. Donc, les marchés publics, à la base, avaient jouaient ce rôle-là, tout comme les parvis d'église. Mais souvent, les deux étaient très près. En fait, les marchés étaient souvent tout près des
C'est
églises.
Dimanche matin, sortie de l'église.
Voilà. Donc, c'est exactement ça. Donc, on veut, sans vouloir nécessairement retourner en arrière, on veut, disons, donner les moyens aux gens de retrouver un peu l'ambiance de quartier qui manque de nos jours. En fait, on est plus isolés qu'avant et on pense que ça, c'est... Plus il y aura de lieux pour échanger, mieux la société va se porter.
Oui. Ben justement, cette fin de semaine, pour approcher les gens et puis rendre l'événement un peu festif, on va avoir un groupe qui va jouer, c'est ça?
Oui.
Qui s'appelle La Ritournelle, et qu'on va écouter tout de suite pour ceux qui viendront sur le marché ce week-end. Ça donne un petit avant-goût. Voilà, La Ritournelle.
J'ai le mal du nomade, la phobie du cul entre deux chaises. Je suis de moins en moins à l'aise avec les gens qui sont maussades. Mes vices d'aujourd'hui sont mes vertus de demain. Après tout cet ennui, il est bien temps que je me prenne en main. Allez sous de moi, rêver un peu, se dire qu'on est. J'ai le mal du nomade, la phobie du cul entre deux chaises. Je suis de moins en moins à l'aise avec les gens qui sont maussades. viens avec toi. Allez sous le bras, rire un peu. C'est-à-dire que c'est tant mieux qu'on sait, mais qu'on en est là. J'en ai mordu la poussière pour finir par me taire. Mais comme tant d'autres, je suis à bout de souffle de voir qu'il n'y a personne qui bouge.
C'est louche!
Tout le monde se laisse aller devant leur feuilleton préféré. À coup d'abrutissement, vive le ralentissement. Pour s'éteindre la cervelle, pour trouver tout ça joli.
On est de retour avec Dominique pour nous parler de, du Faubourg en saveur qui va se dérouler, qui va se lancer cette fin de semaine. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter sur ce marché?
Producteurs sur place avec différents produits. On a deux producteurs maraîchers qui vont avoir des produits diversifiés, fruits et légumes, bien sûr. Donc, les entreprises Terra Sativa et les Jardins d'Inverness. On va avoir un producteur de poulet biologique, le poulet fermier de Saint-Apollinaire, je crois. Donc, c'est tout des producteurs des environs, soit de la rive sud ou d'ici la rive nord. Il va y avoir la coopérative La Mauve qui vont avoir leur camion sur place avec différentes charcuteries, des viandes. Ils vont servir aussi des breuvages et différents du prêt-à-manger aussi. Ça va être possible de manger sur place aussi, c'est ça qui est important de dire.
Oui.
On va avoir aussi la Dame de Trèfle qui vend des produits de l'érable, des fromages, des champignons sauvages. Et des produits prêts à manger.
D'accord. Il y a les producteurs. Est-ce que les commerçants du quartier sont aussi associés au marché?
Oui, on a un kiosque réservé aux commerçants du quartier, mais les commerçants producteurs ou transformateurs, donc on veut, ouais. C'est sûr que c'est des C'est pas de la revente en tant que telle, c'est des gens qui fabriquent des choses. Et on attend toujours les confirmations pour les marchands, là, mais on sait qu'on va en avoir, mais on ne sait pas exactement qui et à quel moment, mais ça va se confirmer dans les prochaines heures.
D'accord. Tu m'as dit qu'il allait y avoir des animations aussi à chaque semaine. Donc là, la première semaine, c'est... Rappelle-moi, c'est qui celle-là, le dimanche?
Ben, en fait, c'est ça, c'est la ritournelle qui va assurer la musique. Sur place, il va y avoir de l'animation pour les enfants aussi, des maquillages... des dessins à la craie sur le parvis et des choses comme ça là, qui vont avoir lieu. Donc, c'est un endroit où on peut amener ses enfants et prendre le temps de discuter avec les producteurs. Là. Il va y avoir une personne aussi qui va s'occuper de divertir les enfants pendant que les parents font les achats.
Et donc, ça sera tous les dimanches pendant...
Oui, pendant 4 semaines. Donc, le 28 juillet, le 4 août, le 11 et le 18 août.
D'accord. Il y aura des animations à chaque fois? Ça sera...
Oui, d'accord. Tout à fait. Bon. Oui. Il y a différents musiciens. Le 4 août, ça va être Stéphane Groslot qui joue de l'accordéon et qui est amuseur public aussi. Il va y avoir Laurence Petitpas qui est aussi accordéoniste. Et en fait, à la fin, le 18 août, ça va être Rob Bob, un auteur-compositeur-interprète de Limoilou, pour ceux qui le connaissent, qui joue... qui fait du gazou et du ukulélé.
D'accord. Voilà. C'est vraiment beaucoup plus qu'un marché public.
Oui, c'est un marché festif.
Ouais. Vous n'êtes pas les seuls, en fait, à avoir lancé cette initiative cet été?
Non, il y a aussi une initiative dans Saint-Sauveur qui démarre cette année par le collectif Fardoche qui l'organise. Et effectivement, ça va avoir lieu les samedis. Ça commence le 3 août, 4 samedis consécutifs, un peu une formule semblable à la nôtre, sans qu'on se soit consulté d'ailleurs. C'est pas les mêmes producteurs. Je sais qu'il va y avoir aussi de la musique et de l'animation. Donc, pour ceux qui habitent plus le quartier Saint-Sauveur, je vous invite à aller faire un tour.
Et puis finalement, c'est un projet pilote. On teste un peu la formule, c'est pour que dans l'avenir, ça devienne quelque chose qui revienne régulièrement?
On souhaiterait qu'il y ait un marché de façon permanente à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, tous les dimanches idéalement. Peut-être que ça changera de jour, on verra. Là, on va évaluer à la fin de l'année en fonction des commentaires reçus par les producteurs et par les citoyens. Mais globalement, oui, l'idée, c'est d'en faire un marché récurrent qui revient d'année en année avec une fréquence plus fréquemment.
Vous avez été soutenu par qui, finalement, dans ce projet?
La Caisse populaire de Québec, qui nous a donné un coup de pouce au niveau financier et aussi au niveau logistique. Il y a la députée Mme Agnès Maltais qui a contribué aussi. Et puis le collectif Caméléon, qui est un organisme de Québec en Haute-Ville qui a comme mission, là, en fait, d'axer sur la sécurité alimentaire pour les familles avec enfants. Donc, ça, c'est les partenaires financiers. Pour ce qui est des partenaires qui ont investi du temps.
Du temps,
c'est quand même pas rien. C'est le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste. Il y a les Amis de la Terre de Québec qui ont investi, qui sont... Dans le fond, ça, c'est les organismes qui se sont réunis à partir de janvier pour monter le projet, avec le collectif Caméléon qui était impliqué aussi au niveau logistique, et le C3S de la Vieille Capitale aussi, qui a donné du temps.
On a parlé aussi de sécurité alimentaire. Il y a aussi un projet... d'acheter une partie des produits qui seront réutilisés. Enfin, voilà, explique-moi.
Oui, en fait, on a développé un concept qui s'appelle Recettes en attente. Ça se base, en fait, c'est inspiré librement du café en attente qui a été implanté au Tam Tam Café et aussi à d'autres endroits à Montréal. En fait, l'idée, j'expliquerai pas le café en attente parce que ça va être trop long d'expliquer les deux, mais en fait, l'idée avec la recette en attente, c'est qu'il y a un chef de la région qui va développer une recette avec les produits des producteurs présents sur place. Et les gens vont être invités à acheter certains des ingrédients pour faire une recette collective, en fait. Et c'est une fois que tous les ingrédients vont avoir été achetés, ils vont être remis à un organisme de la région qui travaille en sécurité alimentaire. Donc, ça va être soit une cuisine collective ou une soupe populaire. Et la recette va être réalisée et remise à des personnes qui en ont besoin, qui en ont besoin et qui n'ont pas la chance de découvrir nécessairement les produits locaux parce que souvent, c'est pas leur budget ne leur permet pas.
Mm-hmm.
Et bon, les gens qui contribuent vont pouvoir aussi essayer la recette à la maison parce qu'ils vont elle va être disponible pour les gens sur place. Ils vont pouvoir avoir une copie de la recette.
Ouais, c'est une formule originale plutôt que de juste donner quelques pièces. Là, on donne de la nourriture.
Oui, c'est ça.
Bon, bah, beaucoup d'activités en vue pour ces prochains dimanches. Mm-hmm. J'invite les auditeurs à venir vous voir sur le parvis de Saint-Jean-Baptiste. Alors, rappelle-nous les horaires, les dates.
Alors, c'est les dimanches du 28 juillet jusqu'au 18 août inclusivement, de 9h à 13h sur le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste.
Voilà, rendez-vous pour vous amuser et aussi acheter des produits locaux.
Voilà. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook en tapant Faubourg en saveur. Vous allez tomber sur notre page.
Oui, il y a des nouvelles à chaque fois.
Tout à fait, oui.
Sur les producteurs, j'ai vu ça. Et puis, aussi sur le Facebook de Sekaya, on va mettre une petite nouvelle où on renverra vers ton site Facebook. Voilà. Et puis, vous aurez aussi l'enregistrement de l'émission si vous voulez la réécouter. Merci beaucoup, Dominique.
Merci.
Merci beaucoup, Michel. Et puis, on se retrouve dans deux semaines. Voilà, pour cette nouvelle émission de Troisième Planète. Merci beaucoup.